Premier épître de Jean, chapitre 4, les versets 7 jusqu'au verset 18. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 18. Au nom de Jésus, Dieu est amour. Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils pour que grâce à son sacrifice, nos péchés soient pardonnés. Je vais m'arrêter au verset 10, ce qui était prévu. Je reprends. Et envoyé son Fils pour que grâce à son sacrifice, nos péchés soient pardonnés. Amen. Dès qu'on lit le verset 7, aimons-nous les uns les autres. Alors beaucoup s'embarquent dans des dérives charnelles, comme le slogan « Faisons l'amour et non pas la guerre » au temps de la guerre de Vietnam, le fameux « Peace and love ». Ou bien dans des notions humanistes qu'on essaie de peindre avec l'expression « l'amour est une valeur chrétienne », comme la charité, l'entraide, le vivre ensemble, etc., etc. Tout ça, c'est beau, mais est-ce que le texte parle de cela ici ou pas? D'ailleurs, si nous mettons en parallèle avec notre péricope d'aujourd'hui, ce qui est dit par Paul, dans son épître aux Corinthiens que j'ai lu pendant la confession des péchés, et je vais reprendre ce texte, je vais le relire dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Je pourrais être capable de parler des langues des hommes, de celles des anges, mais si je n'ai pas d'amour, mes discours ne sont rien de plus qu'un tambour bruyant ou qu'une cloche qui résonne. Je pourrais avoir le don de transmettre des messages reçus de Dieu. Je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les secrets. Je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer des montagnes. Mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps pour être brûlé. Mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. À la fin de cette lecture, on se pose la question, mais si tout cela n'est pas l'amour, qu'y a-t-il plus? Donner ses biens, donner son corps, parfois même faire déplacer les montagnes parce que quelqu'un qui a la foi. La connaissance du Christ, une forte foi, des sentiments charitables et même un dévouement jusqu'à la mort ne valent rien sans l'amour avec un grand A, qui n'est autre que le Christ. Alors l'amour n'est pas un quelconque caractère, l'amour n'est pas une attitude, ici dans le texte. Alors c'est quoi? Je crois que nous avons posé la mauvaise question. Au lieu de dire « c'est quoi l'amour ?», on devrait plutôt dire « c'est qui l'amour ?». Je ne sais pas dans vos Bibles, mais dans la NBS, la nouvelle Bible seconde que j'ai utilisée pour préparer ma méditation, il y a déjà un sous-titre de cette péricope. Il est dit « Dieu est amour ». Ce petit verbe, cet auxiliaire, verbe « être », change tout si on l'a remplacé par l'auxiliaire avoir. Si on dit Dieu a de l'amour, c'est une autre signification. Ou si Dieu est amour. Donc ce petit verbe change carrément le sens de la phrase. Donc ce qui prime ici, ce n'est pas l'amour. Parce que souvent, tout de suite, on dit c'est quoi l'amour ? Ce qui prime ici, c'est de décrire qui est d'abord Dieu. Et quand on connaît Dieu, on sait ce que c'est que l'amour. L'amour en question ici, c'est Dieu. Ce n'est pas son comportement qui est mis en avant en premier, c'est lui d'abord. Et par la suite, ce qu'il fait pour nous, pour l'homme, n'est que la manifestation de son identité. Mais le vrai amour, c'est une personne, c'est un individu, c'est l'Éternel. Le don de soi, la charité, le dévouement, la solidarité, la fraternité, tout ce que vous voulez, tous ces caractères-là peuvent être aussi présents chez les non-chrétiens. Nous ne sommes pas les seuls dépositaires de ces valeurs. Nous ne sommes pas les seuls détenteurs de ces caractères. Alors ce n'est pas le fait d'avoir ces attitudes de solidarité, de fraternité qui nous qualifierait de chrétiens. Non, nous nous trompons. Et d'ailleurs, ce qui fait un peu honte, pour ne pas dire ce qui me fait honte à moi, parfois ces personnes qui sont en dehors de la vie chrétienne ont plus que nous de ces choses citées ci-dessus. Ils ont plus de solidarité, ils ont plus de fraternité, ils ont plus de dévouement que nous les chrétiens. Donc si c'est à partir de là qu'on va évaluer ou donner une définition que tu es chrétien parce que tu vis dans la solidarité, les musulmans aussi, ils l'ont. Les bouddhistes aussi, ils l'ont plus que nous. Et tant d'autres. Et c'est là que nous nous trompions si nous mesurons ou évaluons quelqu'un que seulement à partir de ses normes. Nous aimons tellement classer les gens dans des cases que nous avons fabriquées nous-mêmes. Et là, nous donnons une connotation biblique. Il est vrai qu'au verset 7, il est dit « Aimons-nous les uns les autres ». Mais bien avant qu'il dit « Aimez-nous les uns les autres », n'oublions pas le terme au tout début, « Bien-aimés ». Aimons-nous les uns les autres. Bien-aimés, ce tout début. Mais qui sont ces bien-aimés en question ? La deuxième partie du verset, ainsi que le verset 8, nous donne la réponse. Ce sont ceux qui sont nés de Dieu et qui connaissent Dieu. Et quand je dis ici qui connaissent, dans le terme grec, dans le sens des élus, les élus de Dieu. En d'autres termes, nous ne pourrons jamais connaître cet amour sans avoir été touchés par Dieu. En quoi s'agit-il précisément ? L'amour, c'est ce que Dieu a fait et non ce que moi j'ai fait pour Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça le plus important. Et c'est quoi ce que Dieu a fait pour moi ? Verset 10, « Il a envoyé son Fils comme expiation pour nos péchés. » C'est ça l'amour. Et Jean souligne bien que cet amour précède tout amour qui pourrait se greffer par la suite sur cet grand amour. L'amour de Dieu est un amour qui précède. Et nous allons voir pourquoi. J'insiste sur ce mot « précède ». Dans Romains chapitre 5, versets 6 à 8, il est dit, Romains 5, 6 à 8, « En effet, lorsque nous étions encore sans force, » je souligne cette partie, « nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste ? Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Deuxième texte, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et la suite surtout, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez bien, ce n'est pas l'homme qui est appelé à se réconcilier avec son Dieu, mais c'est Dieu qui se réconcilie avec l'homme. Le sens que j'avais dit tout à l'heure, de haut en bas, et non l'inverse, c'est Dieu qui se réconcilie à nous. C'est lui qui vient en premier. L'amour, c'est Dieu qui se donne sans regarder nos imperfections, ni tenir compte de nos péchés. Et ça, ce que j'appelle un amour injustifié, un amour inexplicable, un amour hors de toute logique qui existe sur cette terre. Parce que sur cette terre, si j'aime une personne, il y a toujours un « parce que » après. Je l'aime parce que, premier tiré, deuxième tiré, troisième tiré. Mais l'amour de Dieu, même avant que nous avons eu cette idée d'aller vers lui, il nous a déjà aimés. Souvent, nous pensons que c'est à nous d'enlever nos iniquités, c'est à nous d'abord d'enlever nos fautes pour que Dieu puisse faire quelque chose pour nous. Non! Même cette envie de dire, voilà, j'ai envie de lire la Bible, j'ai envie d'aller au culte, j'ai envie de prier pendant quelques minutes avant d'aller au boulot, ça ne vient pas de toi. C'est l'œuvre de Dieu qui travaille tout doucement, sans qu'on ne soit conscient qu'il est là et qu'il nous touche. Face à cet amour, nous sommes passifs. Et voici ce que dit un théologien allemand qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Ainsi, l'amour est quelque chose qui arrive à l'homme, quelque chose de passif, dont il ne dispose pas, car ce quelque chose se situe au-delà de l'existence humaine. Et plus loin, il dit encore, aimer veut dire laisser transformer son existence entière par Dieu. Se laisser introduire dans le monde tel que Dieu le veut. L'amour, dit Dietrich Bonhoeffer, n'est donc pas un choix de l'homme, mais l'élection de l'homme par Dieu. C'est vrai. L'amour n'est pas un choix que moi j'ai fait. Souvent, on veut mettre en la... Oui, mais moi, j'ai choisi d'aimer Dieu. C'est faux. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Notre amour pour Dieu se repose uniquement sur cet amour de Dieu envers nous. Tout ce que nous faisons pour essayer de prouver que nous aimons Dieu ne vaut rien si nous ne sommes pas aimés de Dieu, si nous ne sommes pas d'abord enfants de Dieu. Toutes les œuvres que nous faisons sont classées bonnes ou mauvaises, pas en fonction de la qualité, pas en fonction de la quantité de l'œuvre, mais en fonction de fruits de l'amour si nous sommes en Christ. Ce n'est pas la qualité ni la quantité de l'œuvre que nous avons fait qui compte aux yeux de Dieu, mais son origine. D'où puises-tu cette force d'aimer? Parfois, il y a des amours quand on pense que ah, cette personne-là, il a vraiment de l'amour, il aime vraiment son prochain. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Il faut creuser un peu plus profond. Mais d'où vient cette manifestation d'amour? Si ça vient de son raisonnement intellectuel, si ça vient de son éducation, si ça vient de ce qu'on lui a inculqué pendant son enfance, c'est peut-être beau, mais si ça ne vient pas de celui qui l'a envoyé, ça ne vaut rien. Et c'est pour cela qu'à la fin des temps du jugement dernier, il y aura des gens qui disent « Mais j'ai déjà fait ceci et cela pour toi, Seigneur !» C'est dans l'Évangile. Et le Seigneur « Mais je ne te connais pas !» Peut-être que tu vas présenter ton CV, j'ai fait ceci pendant 20 ans. Je me suis inscrit dans des ASBL pour faire ceci à mes voisins. Oui, c'est beau, mais ce n'est pas en mon nom, mon fils. Alors tout cela tombe à l'eau, si ce n'est pas sur cette base que tu es enfant de Dieu. Je me rappelle encore un vieux monsieur que je connaissais au pays. Il était vers la fin de sa vie. Et à chaque fois, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour le préparer pour la fin? Je lui posais la question à chaque fois. Papy, est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Seigneur? Tu es prêt à partir? Et jamais il me répondait. Tu sais, pasteur, c'est moi qui a construit le toit de cette église. Tu n'étais pas encore né. Tu sais l'histoire de cette paroisse qui habite dans tel quartier. C'est moi avec mes parents qu'on a fait. On a transporté les pierres. J'ai dit, c'est pas ma question, papy. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Seigneur? Et à chaque fois, la réponse était la même. Ah, moi, j'ai déjà contribué dans la paroisse. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est dur de répondre à une simple question. Es-tu prêt à rencontrer ton Seigneur? Au lieu de dire oui ou pas encore, on veut se cacher derrière nos œuvres. Là, c'est plus confortable parce qu'on peut se justifier. Mais ce n'est pas les œuvres, mais pourquoi tu l'as fait? D'où vient cette motivation? Alors, nous connaissons bien même par cœur le verset dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Car l'amour du Christ nous presse. C'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qui me presse à faire quelque chose si ça ne vient pas de l'amour du Christ? Ça ne vaut rien. Et regardez bien, il ne dit pas « c'est pour l'amour du Christ ». Le texte ne dit pas ça. Mais c'est l'amour du Christ. Vous voyez la différence? Souvent on dit « oui, mais je le fais pour Dieu ». Ce n'est pas ça qui compte. Tu le fais pour Dieu, oui, c'est bien. Mais est-ce que tu le fais par l'amour de Dieu? Alors l'amour de Jésus présent en lui, c'est cet amour-là qui œuvre en nous, qui effectue ce qu'il fait. Et l'origine des actes ne vient donc pas de moi, mais vient de celui qui est en moi. C'est pour ça que l'orgueil, chers frères et sœurs, est grave. L'orgueil spirituel. Parce que nous usurpons la gloire de Dieu qui ne doit pas en aucune manière nous revenir. Quand on dit à Dieu, à Dieu seul la gloire, parfois à la fin de nos phrases, ah, on a fait ceci et cela, à Dieu seul la gloire. C'est juste une formule de politesse, mais ça cache quelque chose. C'est une façon de se rappeler que, voilà, j'ai quand même fait quelque chose. Mais je vais couvrir ça vite fait, à Dieu seul la gloire. Nous avons tellement l'habitude dans la vie, quand on parle d'amour, c'est quelque chose qui est plutôt actif. Mais en réalité, l'amour, ici, c'est passif face à l'amour. Et pour terminer cette méditation, je reprends aussi quelques phrases de Bonhoeffer. Il a bien saisi la chose en disant « Aimer Dieu n'est qu'un autre aspect de l'amour dont Dieu nous aime. Être aimé de Dieu implique aimer Dieu. C'est dans notre être total, pensée, action, que nous sommes aimés par Dieu et réconciliés avec lui par Christ. Et c'est de tout notre être, esprit et corps, que nous aimons Dieu et nos frères.